Donc, on a nos deux branches, nos deux familles. Donc, Louis XVIII meurt en 1824 et c'est son frère cadet, donc Charles X, sous le nom de titre de Charles X, qui lui succède. Alors, Louis XVIII était un personnage fin, subtil, cultivé. Et donc, au retour, il y avait eu cette terreur blanche, ce qu'on appelait la terreur blanche, c'est-à-dire que, eh bien... Les aristocrates eh bien, ont voulu se venger des révolutionnaires. Hein. Il y a eu le terreur rouge, si on peut dire, l'échafaud hein, pour beaucoup d'aristocrates. Et donc, et puis les biens des aristocrates spoliés, etc. Donc ils reviennent. Et il y a eu, notamment dans le Midi, des vengeances, quoi, une espèce de vendetta, là, ce qu'on a appelé la terreur blanche. Et aux élections, puisque au retour, il doit donner une charte, une charte constitutionnelle. Ça n'est plus le monarque de droit divin. Hein. La Révolution est passée par là et l'Empire. Et donc, c'est une constitution avec donc qui est consentie par le roi. C'est une espèce de république monarchique, si on veut, ou une monarchie parlementaire. Donc, il y a une chambre des pairs héréditaire. Les pairs sont nommés par le roi, la chambre haute, et puis une chambre des députés, là, qui peut voter des adresses au souverain qui est élu. C'est le suffrage censitaire, c'est-à-dire ce sont les citoyens imposés, donc a priori les plus riches, qui élisent hein, cette chambre des députés. Et le roi peut dissoudre. C'est le droit de dissolution, donc voilà. Et alors que Louis XVIII était fin, subtil, et qu'il avait parlé de chambre introuvable lors des élections survenues en 1815, c'est-à-dire qu'il y avait une ruée monarchiste. C'était trop beau, hein, finalement. Et donc, il a essayé d'apaiser les tensions, vous voyez. Mais son successeur et frère cadet, Charles X, n'a pas cette finesse. Cette subtilité, il est ultra, c'est un ultra, on va dire, il est plus royaliste que le roi, donc il est très rigoureux, très intégriste, et donc dès après 1824, il va installer un régime très blanc, on va dire, ça sera vraiment le drapeau blanc, avec des mesures, notamment il va s'allier avec l'Église, il sera tenu par les évêques, et ça sera vraiment l'alliance du trône et de l'autel à l'ancienne, hein. Il va revenir à l'époque de l'ancien régime de Louis XVI et prédécesseurs, par exemple, eh bien, profaner une hostie ou sera passible des travaux forcés, vous voyez. Donc cette alliance. Et puis c'est entre, encore une fois, le trône et l'autel, et donc une vision très étriquée quand même, et pas du tout évoluée. Et puis il a été sacré en 1824, c'était un sacre qui paraissait déjà désuet, un sacre à Reims avec la Sainte Ampoule au XIXe siècle, ça paraissait encore une fois déconnecté de l'époque. Hein, voilà. Et il va faire appel à des ministres, donc il y aura un ministère de Villèle, mais donc sous la pression des chambres, il sera renvoyé, il devra renvoyer son ministre, parce que probablement trop, là lui aussi trop intégriste, trop à droite. Ensuite il y aura un ministère Martignac, qui sera royaliste modéré, mais que le roi ne voudra pas garder aussi. Et il fera appel, alors ça sera les... fatal, Polignac, ça sera le Jules de Polignac, qui est d'ailleurs le fils de cette Polignac, qui était la comtesse Jules, qui était l'amie de Marie-Antoinette et qui avait fait tant de tort à la monarchie et au trésor public, hein, puisque c'était les privilégiés et qu'elle avait, avec sa famille, obtenu. Alors, c'était un vrai pillage du trésor public, des prébends, des pensions, des cadeaux somptueux, voilà. Et donc, Polignac n'est pas très populaire. Et donc, lui aussi, c'est un pur et dur, on va dire, un royaliste pur et dur. Donc, aucune ouverture possible. Donc, voilà. C'est donc un Charles X qui est un peu à courte vue. Et donc, pour situer, toujours dans le décor, donc les souverains, donc à l'époque, donc Charles X est installé aux Tuileries, et les Orléans, duc d'Orléans, sa famille, donc Marie-Amélie, leurs neuf enfants, et puis la sœur du duc d'Orléans, qui a une importance, qu'on appelle madame, qui est mademoiselle, qui est Adélaïde, qui a une influence sur son frère, qui est l'aînée et qui restera toujours une conseillère. Voilà. Et donc, eux sont au Palais Royal. Voilà. Et donc, les deux familles un peu se regardent un peu en chien de faïence, bien que les Orléans soient très obséquieux à l'égard des... à l'égard eh bien, de la branche aînée. Hein. Mais Louis XVIII se méfiait de son cousin. Par exemple, il disait « Il ne remue pas, il chemine. » Voilà. Il était candidat quand même aux affaires, au pouvoir. Et puis, on sait que à la mort du duc de Berry, c'était le seul fils qui avait des enfants, une fille aînée. Et il s'est trouvé qu'il y a eu un fils posthume, mais si ce fils posthume n'avait pas existé, si la duchesse n'avait pas été enceinte, eh bien la couronne, par dévolution normale, revenait aux Orléans. Et quand on sait que le père, je l'ai dit, de Louis-Philippe, qu'on appelait Philippe Égalité, avait été un révolutionnaire acharné, qui avait voté la mort du roi, avant de périr lui aussi sur l'échafaud en 1793, qui avait voté la mort de son cousin. Donc, c'était assez scandaleux, c'était assez... et puis alors, on avait envisagé, la question a été posée, de permettre que les femmes puissent succéder pendant la période donc, du règne de Louis XVIII, avant la naissance du fils posthume, Dieudonné, c'est Henri qui deviendra Henri V, envisagé de faire en sorte que les femmes, excluant cette loi salique, puissent succéder, puisque Berry et Marie-Caroline avaient une fille. Voilà. Et donc, mais comme un fils est survenu en 1821, eh bien, on a abandonné ce projet. Il aurait été peut-être plus sage pour assurer les arrières pour les Bourbons d'installer cette réforme. Bref, donc on en est là, mais Charles X va bientôt commettre une série d'erreurs suicidaires. Et nous entrons vraiment dans le cœur, dans le récit de ces événements après la nouvelle pause musicale.